Les entretiens Hypnocafé.
Une session proposée par Charles Jousselin, médecin et philosophe.
Voilà, bonjour Gérard Osterman. Bienvenue, nous sommes à Luxembourg lors du congrès de la CFHTB. Voilà, écoute, faisons simple. J'aimerais que tu nous dises deux mots sur toi, qui tu es. Et puis ensuite, tu abordes le sujet que tu avais envie de nous parler.
Alors, mon parcours est de fait un peu atypique, puisque j'ai une formation de base plutôt de médecin un peu. Je m'intéressais beaucoup à la biochimie. J'ai fait de la pharmacologie et de la cardiologie pendant pratiquement 15 ans. Et j'ai terminé par la cardiologie interventionnelle. Et puis, il s'est passé la chose suivante, c'est que pendant ma formation en cardio et mon clinicien en cardio, j'étais très étonné des réactions des patients dont certains étaient sauvés véritablement de leur histoire, par exemple coronarienne, voire dissection aortique, et les gens déprimés alors qu'ils avaient été sauvés. C'est-à-dire que le choc vécu par eux, la représentation qu'ils en avaient, et au fond, nous, on n'avait pas les outils pour les aider à ce moment-là. Je dirais même que c'était vécu souvent dans l'ambiance soignante comme un peu irritant que ces gens-là avaient été sauvés et puis finalement ils n'allaient pas bien. Voilà. Et je me rappelle d'une histoire qui m'a beaucoup touché, d'une femme, à l'époque je faisais pas mal de coronarographie, et cette femme était soignée pour une angine de poitrine, comme on disait à l'époque, et cette angine de poitrine lui faisait prendre des médicaments, dont certains d'ailleurs n'étaient pas anodins, parce qu'il y avait de la cordarone, de l'amiodarone, et qui amenait parfois un certain nombre de problèmes oculaires, enfin mais pas que, ou thyroïdiens. Et je lui fais une coronarographie, qui tout se passe très bien, et je constate à sa coronarographie que les coronaires sont rigoureusement normales. Et moi, ravi de lui annoncer la bonne nouvelle, « Madame, vous avez des coronaires normales, on va pouvoir arrêter le traitement. » Et là, l'effondrement véritable de cette personne, qui était effectivement installée dans sa néo-identité de maladie coronarienne, je suis coronarien, donc je suis cardiaque. Et brutalement, elle n'est plus cardiaque. Elle perd une identité qui était une fausse identité. Et alors tout ça m'a amené à entrer dans une formation avec Michel Sapi. Je suis, comme on dit, leader baline, c'est-à-dire j'ai animé pendant des années, avec une collègue en particulier, des groupes balines pour essayer de comprendre finalement ce qu'il en est de ce qui se passe dans la relation, qui est la clé de voûte, à mon avis, du soin, dans cette dynamique transfert contre transférentiel. J'ai fait mon analyse personnelle pendant une dizaine d'années. Je dois dire que je ne sais pas si ça a soigné réellement quelque chose en moi. Ce que ça m'a, par contre, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans la relation soignante, et en particulier cette notion de contre-transfert que j'emprunte à André Breton, d'ailleurs le poète suraliste que tout le monde connaît. Et André Breton disait « Cette personne est venue me voir, je ne la connaissais pas, et cette personne est venue me voir pour me donner de mes nouvelles. » Et ça, je trouvais ça génial.
C'est bien.
C'est-à-dire que c'est à partir de là, finalement, que je me suis intéressé à cette notion de la relation dans le soin. Et ensuite, après, je me suis formé à la thérapie narrative avec mon ami Julien Bedves. Et je dois dire que pour moi, ça a changé beaucoup les choses, parce que l'hypnose, j'ai été me former du temps de Chertok à l'hypnose formelle, et j'ai appris beaucoup de choses sur le plan de l'hypnose formelle, et je ne regrette pas du tout, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Après, j'ai découvert l'hypnose conversationnelle, et je dois dire, plus encore, avec la thérapie narrative, je découvre l'hypnose conversationnelle, certes, mais je découvre aussi toute cette notion où finalement, on est dans la véritable rencontre avec la personne, dans ces trois paysages, que sont les paysages de la relation, le paysage des intentions et des valeurs, et le paysage de l'action. C'est-à-dire moi et le monde, moi et l'autre, moi et moi. Et tant qu'on n'a pas cette vision globale de ces trois cercles, je dirais, interpénétrés, un peu comme le nœud borroméen proposé par Jacques Lacan, hein, le réel, le symbolique et l'imaginaire, mais c'est un peu du même ordre. C'est-à-dire que finalement, je ne peux devenir moi ou je ne peux m'abandonner à l'autre que si je suis en relation, si je perçois, Charles, ton intentionnalité positive en me posant ces questions, je peux me lâcher, je dirais, dans la relation. Sinon, je vais être dans des mécanismes défensifs. Et je risque d'être fort dans un faux self, comme on dit.
Très bien, ouais, magnifique. Très bien.
Alors,
tu voulais nous parler...
Je voulais parler un peu de cette expression que j'ai malheureusement, comme beaucoup, connu dans mon enfance, quand on veut, on peut.
Oui, quand on veut, on peut.
Alors oui, where there is a will, there is a way, comme on dit en anglais. Mais est-il vrai, ou est-ce aussi vrai, quand on parle de la souffrance psychologique? Est-ce que parce que je le veux, je peux me défaire de mes mauvaises habitudes, de mon angoisse, de mes peurs? Et on dit à ce moment-là, non mais lâchez prise. Mais quelle formulation quand même, cette espèce d'injonction. Mais alors, comment lâcher prise? Et on voit bien, d'ailleurs, les personnes qui nous consultent cherchent tous, la plupart du temps, à mettre fin à un symptôme, à la douleur, sur lequel tu as beaucoup écrit, à la peur, à l'addiction, à la dépendance. En un mot, commençant, elles veulent mettre fin à leur souffrance. Et dans cette demande, je dirais, naïve et profane, il est souvent suggéré que la fin de la plainte, pour reprendre l'expression de ce cher François Rostand, doivent passer nécessairement par le lâcher prise, forme d'incantation magique, tout viendrait de ne pas savoir lâcher prise. Mais est-ce qu'on est libre de vouloir? J'ai travaillé comme agrégé dans le service de nutrition et d'endocrinologie du professeur Lutheniger, parce que j'étais parti aux États-Unis à la fin de mon clinica en cardiologie, ou presque au début du clinica, pardon. J'étais à Houston pendant un an, où j'ai fait de la pharmacologie cardiovasculaire et de la recherche. Quand je suis revenu, normalement, je devais réintégrer le service de cardio, loin des yeux, loin du cœur. Enfin, là, le cœur, on entend bien la symbolique. Du coup, j'ai été récupéré, c'est le cas de le dire, après avoir passé mon agrégation en médecine interne et thérapeutique, par Marc Lutheniger, qui est devenu un ami par la suite. Et je me rappelle, par exemple, dans le champ de la nutrition, ces énormités qu'on entendait dans la relation, ça c'était dans les années 70, les plus grands mentors, je dirais, de la nutrition, disait par exemple madame, parce qu'elle se plaignait de différentes choses, donc, par exemple pour des problèmes de genoux, des problèmes articulaires, vous reviendrez me voir quand vous aurez perdu 20 kilos. Et je me rappelle, je ne le nommerai pas, d'un professeur de nutrition qui était très connu, qui répétait à l'envi à peu près deux formules extrêmement culpabilisantes. Il disait souvent, madame, il y a deux types d'aliments, les bons et les mauvais, mais malheureusement ce sont les mauvais qui sont les meilleurs. Quand on sait, au nom du principe d'analogie, qu'on devient ce que l'on mange, comme disait Proudhon, l'identification à la mauvaiseté alimentaire ne rend pas vraiment service aux patients. Et il avait une deuxième formule, puisque j'ai eu des patients qui étaient allés voir son cher professeur et qui m'ont raconté ça. Monsieur, je veux bien aller vous chercher la corde, je veux bien aller vous chercher le seau, mais jamais je n'irai chercher l'eau au fond du puits pour vous. Parabole largement allusive à ce fameux manque de volonté, précisément. Et les patients, comme de nombreux médecins, disent souvent, docteur, j'ai pas de volonté. On le dit souvent, ça, j'entends ça. Et pourtant, c'est marrant parce que dans le domaine personnel, ça va, dans mes règles de vie, ça va. Mais quand il est question de contrariété, de déception, etc., eh ben, je ne peux pas faire autrement. Je mange. Et une patiente m'a dit récemment cette formulation, voilà, quand je suis amoureux, je mange. Quand je suis déçu, je mange. Quand je suis triste, je mange. Avaler, c'est la seule réponse à mes angoisses. Et le seul moment, docteur, où je ne pense pas à manger, c'est quand je mange. Et c'est complètement vrai.
Oui, c'est vrai.
Donc là, ces gens-là, ils vivent une sorte de double punition qui est effectivement liée aussi à quand on veut, on peut. Mais est-ce qu'on est libre de vouloir? C'est ça la vraie question. Et cette espèce d'impératif catégorique qu'on peut entendre aussi avec Emmanuel Kant, hein, quand on doit, on peut, enfin, etc. Donc je peux, donc je dois, donc je, etc. Ou la méritocratie américaine, la fameuse méritocratie entendue avec Obama, yes we can.
Yes.
Hein? Ben, on est effectivement dans le syndrome de la bonne résolution. J'ai voulu, j'ai essayé, j'ai renoncé. Et là on est dans la tristesse, de l'échec, de la dépression, etc. Et à ce moment-là, je ne suis pas du tout golfeur. Et j'ai trouvé un texte, et grâce à mon ami Vianney Descroix, qui s'intéresse beaucoup aussi à l'hypnose, bien évidemment, qui en fait, qui en pratique, qui est devenu doyen d'une faculté, d'ailleurs aujourd'hui. Et ça s'appelle le Yip. C'est lui qui m'a fait découvrir ça, avec un certain Tommy Armour, qui est un champion, vice-champion du monde de golf, etc. Mm-hmm. Et Tommy Armour, il décrit la chose suivante. Quand on arrive au pote, alors il m'a expliqué ce que c'était que le pote.
Ouais, ouais.
Là, au moment où on veut mettre la balle dans le dernier trou, bon, on n'y arrive pas. Plus on veut, moins on peut.
Ouais.
Plus on veut, moins on peut. C'est un peu la métaphore de la tasse de café qui est hyper remplie. Je veux te la porter dans le couloir. Et je me dis surtout, faut pas que je la renverse. Faut pas que je la renverse. Eh, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Donc ça, c'est exactement ce que Edgar Allan Poe appelait le démon de la perversité, ce que Freud appelait la contre-volonté, ou Charles Baudouin, la loi de ce qu'on appelle l'effet de la loi inversée. C'est-à-dire que ce principe est connu depuis longtemps, mais celui qui l'a beaucoup étudié, il s'appelle Daniel Wegener, il a beaucoup publié, compris dans des revues très prestigieuses, il est de Harvard, et il explique ça, il dit c'est effectivement la théorie des processus ironiques. C'est-à-dire que plus on veut, moins on peut. Alors du coup, et ça nous ramène au champ de l'hypnose directement, c'est que justement il faut d'abord ne pas vouloir pour que les possibles arrivent grâce à nos ressources, et c'est quand finalement qu'on peut, que l'on veut. Et si je devais avoir un message presque pour terminer, ouais. Il faudrait que « je le veux »,« je veux » se traduise en « je veux », V-O-E, comme un vœu, comme oui. Quand on énonce les vœux. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ça nous renvoie à Paul Ricoeur, ouais. C'est-à-dire la volonté-désir. C'est ça dont il est question. C'est au fond, qu'est-ce que je veux vraiment ? Et quand on pose la question, on s'aperçoit parfois que les gens savent pas très bien ce qu'ils veulent, ils ne savent pas très bien où est leur désir. Par contre, à ce moment-là, il faut interroger les besoins. D'abord, c'est quoi vos besoins ? Voilà. Ouais. Et là, on peut déployer la pyramide de Maslow, bien évidemment, mais je crois que c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'explorer, regarde, la notion que quand on pense à quelque chose, je parlais des processus ironiques de Wegener, d'ailleurs qu'il a utilisé aussi par rapport justement à l'hypnose, moins on veut penser à un ours blanc, plus on y pense.
Eh bien sûr. Donc,
mais Sartre avait déjà écrit ça par rapport, on ne peut pas avoir une pensée qui élimine un problème comme ça dans la pensée. Par exemple, si je te demande de ne pas penser à une carotte, tu ne peux avoir que la pensée négative de la carotte, mais tu as quand même la carotte, elle est là. Et ça, c'est une vraie difficulté. Ça veut dire qu'il faut à ce moment-là générer une forme de distraction, ou du moins de quelque chose qui attire l'attention suffisamment, donc on est bien dans les processus attentionnels, pour qu'effectivement la pensée parasite ou intrusive soit, remise au second plan dans la hiérarchie de nos préoccupations. Et j'ai beaucoup de passion, beaucoup plus qu'avant. Et je ne sais pas pourquoi, j'en ai pas une élucidation claire, qui viennent consulter pour des pensées intrusives. Et c'est vraiment poignant. Quoi. Et donc là, je pense que l'hypnose peut nous aider. Voilà, Jean-Paul Sartre avait écrit que la conscience ne peut produire une négation si ce n'est sous la forme de conscience de négation. C'est-à-dire que finalement, Et pourquoi la suppression de la pensée serait-elle aussi difficile ? Ça peut paraître paradoxal, et pourtant c'est comme ça. Eh bien, ça c'est en particulier des travaux scientifiques récents en neurosciences qui sont intéressants, c'est-à-dire qu'on a en nous un système de surveillance permanent. qui n'est pas situé au même niveau que le cortex, qui est un peu dans les étages inférieurs, mais c'est comme s'il y avait un truc qui... où est-ce qu'on en est là de l'ours blanc? Tu étais en train de penser à autre chose, tu étais en train de dire ça, il y a un truc qui dit, et au fait là, il est où l'ours blanc? Et ça y est, on est reparti dedans. Et là du coup on essaie de lutter, et plus on lutte évidemment, et plus on insiste, plus ça résiste, etc. voilà un peu l'idée, quoi. C'est-à-dire que je crois que c'est une des clés dans la thérapie en s'appuyant sur les tours. C'est de bien entendre, nous, en tant que soignants, en tant que thérapeutes, qu'il ne s'agit pas du tout de volonté, pas plus qu'on joue avec toute la patientèle qui est aux prises avec les addictions. C'est d'abord, effectivement, de laisser au sens ericksonien émerger les ressources. Ce n'est pas une question de volonté, c'est effectivement laisser émerger les possibles qui viennent de la ressource. Donc on est juste pour ces patients-là, je dirais, et au bon sens du mot de Boris Cyrulnik, des tuteurs de résilience. C'est-à-dire qu'on accompagne les ressources. Et quand on sent, à travers le discours ou à travers le paraverbal, que quelque chose advient, alors curieusement, c'est là où on peut se proposer d'autres objectifs.
Magnifique. Merci Gérard. Merci.